bien le bonjour, chers amis. Je suis Martin, étudiant en histoire et anthropologie à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales. Asseyez-vous donc au coin du feu ou sous un rayon de soleil et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de l'île Dieu. Le 8 décembre 1759, l'île Dieu capitule. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que l'île est envahie par une puissance étrangère. Mais cette fois-ci, il n'est plus question de se réfugier dans le vieux château, démantelé depuis longtemps, ni même de résister par les armes. On se rend sans même combattre. On remet des otages en attendant de payer les 1000 livres sterling exigées par les Anglais à titre de rançon pour l'île tout entière. Serait-ce par lâcheté? Par trahison? Les îlets se sont-ils définitivement résolus à courber l'échine sous le joug de leur seigneur, qu'ils viennent de France ou d'ailleurs? Rassurez-vous, ce n'est pas du tout le cas. Même face aux puissances des États modernes que sont devenus l'Angleterre et la France, les îlets ont plus d'un tour dans leur sac. Et, dans cette tâche, on peut dire que les fameux hommes rouges qui débarquent régulièrement sur l'île sont en réalité leurs meilleurs ennemis.
C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné.
Historia Oya, l'épisode où l'Empire britannique contre-attaque.
Mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Le pire c'est toi et moi. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Bon, les îlets ont capitulé face aux Anglais en 1759. Vous me direz que ce n'est pas vraiment nouveau. En effet, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous vous souvenez sans doute que les seigneurs responsables de l'île Dieu avaient construit le vieux château surtout pour protéger leurs richesses. Mais ils laissaient les envahisseurs, vikings, sarrasins, espagnols et surtout anglais, rançonner et saccager l'île de manière régulière. D'ailleurs, pendant la guerre de 100 ans, ils avaient même laissé les anglais occuper l'île pendant plus de 25 ans. Alors au fond, en 1759, ce n'est qu'une invasion parmi d'autres, non? Eh bien en fait, pas vraiment. Au milieu du XVIIe siècle, le contexte militaire et politique a radicalement changé. Le développement de la religion protestante et les diverses crises de succession plongent les couronnes européennes dans des guerres sans fin. L'enjeu central de ces conflits entre rois et reines est le contrôle des voies maritimes, qu'elles viennent de l'Asie ou du Nouveau Monde. Or, pour s'emparer de ces richesses, il faut faire appel à de vieux loups de mer, des marins expérimentés, prêts à tout pour un coffre d'argent du Pérou. Ces pirates sont donc recrutés par la France, l'Angleterre et l'Espagne pour devenir des corsaires. L'île Dieu, sans défense digne de ce nom, est souvent menacée par les corsaires, au point que se rendre sur l'île depuis le continent et vice-versa devient extrêmement dangereux. Il faut attendre Nicolas Fouquet, l'ambitieux ministre de Louis XIV, pour que des financements soient débloqués et que l'île Dieu soit pourvue d'une défense maritime digne de ce nom. L'objectif de Fouquet n'est alors pas bien louable. Il n'en a rien à faire de protéger les îlets. Lui, ce qu'il veut, c'est s'assurer de place forte en cas de disgrâce royale. Bon, il n'aura pas le temps de mener à bien son petit coup d'état, car le roi Soleil le prend de vitesse et l'enferme en 1671. Malgré la chute de Fouquet, l'île Dieu est tout de même transformée en forteresse. Les ports sont aménagés et dotés de pièces d'artillerie. 11 redoutes côtières sont bâties entre Port-Breton, l'ancien nom de Port-Joinville, et la plage des Vieilles. Ainsi, la côte sableuse de l'île, la seule où un débarquement était possible à l'époque, est entièrement défendue. Les Anglais n'ont qu'à revenir, ils en auront pour leur argent. Et ça n'allait pas tarder. Les tensions entre France, Espagne et Angleterre pour la possession des colonies d'Amérique du Nord provoquent, en 1756, un grand embrasement qui va emmener l'Europe et les Amériques dans une guerre de 7 ans. Et une nouvelle fois, l'île-Dieu sera au premier rang. En 1759, trois frégates anglaises arrivent devant Port-Breton. C'est le moment de la revanche. Et pourtant, pas un seul coup de canon n'est tiré. Le gouverneur et le curé de l'île montent à bord du vaisseau amiral anglais pour signer une reddition. Mais que s'est-il donc passé ?
When I have rencontred you, you was a jeune fille au père, and I put a spell on you, and you roll a pell to me. Together we go partout, on my mob, it was super, it was Friday on my mind, it was a story d'amour. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. You was really beautiful, in the middle of the fool. Don't let me misunderstood, don't let me, sinon I would. My loving, my marshmallow, you are belle and I are beau. You give me all what you have, I say thank you, you are bien brave. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you.
Pour comprendre ce qui a pu mener à la reddition de l'île-Dieu en 1759, il faut revenir un peu en arrière. Et, une fois n'est pas coutume, Charlemagne sera de la partie. Les Anglais qui viennent rançonner les îlets en 1759 ne sont pas les premiers pirates à passer par les parages. Et pendant longtemps, le royaume de France a simplement abandonné les îlets à leur destin. Mais, en compensation, les rois ne leur faisaient pas payer d'impôts nationaux ni de taxes. Ces privilèges insulaires remonteraient, dit-on, à Charlemagne lui-même. À la fin du Moyen-Âge, les bateaux faisant relâche à l'île-Dieu se multiplient grâce au développement du commerce maritime. Les îlets sont devenus des marins, spécialisés dans le cabotage sur la côte atlantique, voyageant de Bordeaux jusqu'à la Hollande. D'ailleurs, sur leurs bateaux, ils embarquaient, comme ration, des pruneaux bordelais, qui sont à l'origine de moult spécialités locales. Un certain nombre d'îlets possédaient même leur propre barque. C'est plus de 180 bâtiments de petit tonnage qui mouillaient à Port-Breton à la fin du XVIIe siècle. L'île-Dieu était alors à son zénith. Mais cette prospérité a quelque chose de suspect, vous ne trouvez pas ? En fait, si les îlets avaient simplement continué à jouer selon les règles du jeu dictées par leur seigneur, ils n'auraient probablement jamais connu un tel âge d'or. Non. Ils ont dû filouter pour en arriver là. Ressortant leur vieille charte de privilèges, les îlets rappelèrent qu'ils étaient exempts de taxes, notamment sur le tabac. Une partie des îlets allait donc acheter du tabac hors taxe en Belgique ou en Hollande pour le revendre en contrebande en Bretagne et dans le Poitou, profitant d'une généreuse marge. Au milieu du XVIIIe siècle, ce business est si florissant qu'il attire des continentaux qui, avec les îlets, forment la société du tabac. La contrebande s'étend même aux épices et au rhum des Antilles. Le gouverneur lui-même est corrompu et profite de sa part du gâteau. Les îlets ont finalement rendu la monnaie de leurs pièces aux seigneurs qui les ont exploités. À présent, c'était le peuple qui allait se jouer des grands. Mais si les seigneurs et les rois les ont laissés faire si longtemps, c'est qu'ils avaient les yeux rivés ailleurs, vers les vastes richesses du Nouveau Monde et de l'Asie. C'est l'époque où les royaumes européens deviennent les pirates du monde. Ils commencent à rançonner les prospères empires moghols et chinois, et ils exploitent les terres dont les populations ont été expropriées ou simplement massacrées. Et pour faire tourner ce grand système de pillage du monde, il faut des hommes, et surtout des marins. En 1688, Colbert recense tous les gens de mer de France et de Navarre. Il leur impose de consacrer une année sur trois au service sur les bateaux du roi. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'un tiers des hommes de l'île-Dieu étaient en permanence enrôlés de force dans la marine nationale, risquant leur vie pour des richesses dont ils ne verront jamais la couleur. Le résultat est catastrophique pour l'île. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la population s'effondre. On passe de 5000 à 2500 habitants. La population est divisée par deux en même pas un siècle. Mais les îlets n'ont pas dit leur dernier mot. Leurs nombreux voyages et leurs contacts répétés avec des populations étrangères vont alors tourner à leur avantage.
Back in the day, as we learned, a man was not considered to be
fully grown.
Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yes, seven seas at least.
Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown.
Yes, scarecrow's in hometown.
From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run.
Yeah, run.
Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rosian. I so knew history of a time. New history.
En 1759, trois frégates anglaises pointent leurs canons sur Port-Breton. Le gouverneur, Jacques Gillaine, veut résister. Certes, il n'a qu'une poignée de soldats, la plupart invalides. Mais bon, les redoutes côtières construites au siècle précédent devraient être suffisantes pour tenir face à ces forbans anglais. Mais Jacques Gillaine va payer pour tous les gouverneurs qui ont exploité, voire tué, les îlets par le passé. Des habitants du coin déchargent ses canons. Et lorsque lui-même se rend sur l'une des redoutes pour passer ses troupes en revue, il tombe sur une cohorte de femmes. Accompagnés par le curé, les Ilaises forcent le gouverneur à se rendre aux Anglais. Pour montrer leur détermination, elles n'hésitent pas à se mettre devant les canons, préférant mourir que céder. Jacques Gillaine n'a d'autre choix que de lever le drapeau blanc. Les Anglais, en contrepartie, se montrent étonnamment civils avec les Ilais. L'amiral Hawke annule ainsi la rançon qui avait été originellement imposée aux îlets et leur rend les deux otages qui avaient été emmenés pour s'assurer le paiement. Je sais pas vous, mais ça ressemble étrangement à un accord à l'amiable, non? Mais la suite est encore plus intéressante. Les Anglais profitent de ce passage à l'île Dieu pour demander après un marin îlet qui a servi sur un bâtiment de la marine royale appelé le Juste. Ce dernier avait en effet coulé un navire anglais et l'amirauté britannique avait donc à cœur de récupérer l'un des matelots y ayant navigué. Mais il ne cherchait pas à se venger. Il lui demandait simplement un témoignage. Sans doute pour déterminer qui, côté anglais, était responsable de ce désastre. Un îlet servant de témoin à charge à des amiraux anglais. On aura tout vu ? Mais il y a encore mieux ! 2 ans plus tard, l'amirauté française, décidée à prendre sa revanche, envoie un espion à Belle-Île, alors occupé par les Britanniques. Et devinez pour qui se fait passer ce fameux espion ? Eh oui, il se fait passer pour un îlet venu s'excuser auprès du fameux Amiral Hawke de ne pas avoir fourni de ravitaillement à l'un de ses navires. Et ça passe comme une lettre à la poste, comme s'il était évident que les îlets devaient une forme de fidélité à l'amirauté anglaise. C'est donc bien que les relations entre l'île Dieu et la Grande-Bretagne étaient bien plus que cordiales. Alors, que peut-on comprendre de tout ça ? Eh bien, qu'une fois encore, les îlets ont su tirer leur épingle du jeu. Seuls face à leur seigneur, ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, ils ont profité de la rivalité entre Français et Britanniques pour jouer sur les deux tableaux. Ils vendaient des vivres aux Anglais qui, en échange, les laissaient en paix. Et côté Français, on n'avait d'autre choix que de les laisser faire et de leur laisser même leurs privilèges, car on avait besoin de marins pour servir sur les navires. On pourrait trouver cette démarche quelque peu cynique. Mais il faut bien imaginer que pour une île perdue au milieu des tempêtes et des corsaires, la débrouillardise et la filouterie étaient des questions de survie. Ainsi, les hommes rouges, comme on appelle les Anglais dans notre île, se sont révélés en fait peut-être de bons alliés pour les îlets. Si certains officiers britanniques se montraient trop impolis envers eux, l'amirauté avait au fait de les remettre sur le droit chemin. Sinon, les îlets pouvaient se montrer de redoutables adversaires. Un jour, ils préférèrent envoyer leur barque remplie de vin par le fond plutôt que de les laisser entre les mains des Anglais un peu trop gourmands. Ainsi, en 1795, lorsque les Anglais revinrent une ultime fois sur l'île Dieu, ils y furent accueillis à bras ouverts. Par contre, les nobles français qu'ils amenaient dans leurs valises furent beaucoup moins bien reçus par les îlets. En effet, entre-temps, il y avait eu la Révolution, et quelques têtes étaient tombées. Mais cela, je vous le raconterai une prochaine fois. En attendant, laissons les îlets profiter de ce petit répit que leur offrent leurs meilleurs ennemis britanniques. Qu'ils profitent de leur tabac bon marché et de leurs tonneaux de pruneaux. Car les seigneurs et les rois pourraient bien en avoir assez de leurs petits arrangements. Il est bien connu que tous les insulaires ont un petit côté pirate.
No future there in London for a poor man's son like me. So I left my home and I went to seek my fortune on the sea. I signed aboard a merchant ship bound for the West Indies. And 6 weeks out we tacked into the winds of piracy. There were sails on the horizon and we tried to make a run. And when we saw that black flag, then our running it was done. And when those pirates boarded us, they told us one by one, you can die or join our crew, me boys, time flies when you're having rum.
Time flies when you're having rum, me boys, time flies when you're having rum. When you're sailing under the black flag and you're firing all your guns. When you take a Spanish treasure ship, you divide by the rule of thumb.
C'était Historia Oya avec votre serviteur Martin. Merci de m'avoir accompagné pendant cette exploration de l'histoire de l'île Dieu. On se retrouve très vite sur les ondes de Neptune. Et en attendant, vous pouvez découvrir d'autres podcasts d'Historia Oya sur le site neptunefm.com.
And as I signed their articles, the captain told me, son, us gentlemen of fortune live life fast and on the run. So step right up and take your share, time flies when you're having rum.
Time flies when you're having rum, me boys, time flies when you're having rum. When you're sailing under the black flag and you're firing all your guns. When you take a Spanish treasure ship, you divide by the rule of thumb. The voyage will be over soon enough, time flies when you're having rum.
For 2 long years I sailed with them around the Spanish main. And we captured ships from Portugal, from England, France, and Spain. And we took what we could and we gave none back, for that's the pirate's code. And the wake we left in the Caribbean Sea ran red with blood. Now the Admiralty in London sent a fleet to hunt us down. And a trader in Port Royal told them where we could be found. They surrounded us and Nassau, the captain shouted, let them come. The fight'll be over soon enough, time flies when you're having rum.
Time flies when you're having rum, me boys, time flies when you're having rum. When you're sailing under the black flag and you're firing all your guns. When you take a Spanish treasure ship, you divide by the rule of thumb. The voyage will be over soon enough, time flies when you're having rum.
We ran the red flag up and then we readied all our guns. No quarter would we give and in return expected none. We got off one good broadside but outnumbered 10 to 1. They took out half our crew and then our pirating was done. They took us back to London town under key and lock. And the hangman's noose was swinging at the execution dock. The captain turned and said to me, we had fine sailing, son. The voyage, it was over all too soon. Time flies when you're having rum.
Time flies when you're having rum, me boys. Time flies when you're having rum. When you're sailing under the black flag and you're firing all your guns. When you take a Spanish treasure ship, you divide by the rule of thumb. The voyage will be over soon enough. Time flies when you're having rum.
Now as you listen to this tale, by now I'm sure you have surmised that I slipped the hangman's cable and escaped him with my life. But how I got away, well, that's another story, son. My voyages, they aren't over yet. Time flies when you're having rum.
Time flies when you're having rum, you boys. Time flies when you're having rum. When you're sailing under the black flag and you're firing all your guns. When you take a Spanish treasure ship, you divide by the rule of thumb. The voyage will be over soon enough. Time flies when you're having rum. Time flies when you're having rum, you boys. Time flies when you're having rum. When you're sailing under the black flag and you're firing all your guns. When you take a Spanish treasure ship, you divide by the rule of thumb. The voyage will be over soon enough. Time flies when you're having rum.